maintenant en compagnie de Monsieur Mohsen El Garbi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Monsieur Garbi, donc, est acteur, comédien, metteur en scène et plusieurs autres choses. Alors, bonjour Monsieur El Garbi.
Bonjour.
Alors, bienvenue à cette émission dont aujourd'hui les hommes. Moi, en tout cas, ce qui m'avait un peu intéressé à vous inviter à l'émission, c'est que vous avez en fait transformé un peu l'héritage de violence qui était présent dans votre famille pour en faire une œuvre sur scène. Alors, je trouvais ça bien, bien intéressant, en fin de compte, de transformer ça en quelque chose là, de positif. Là.
Oui, tout à fait. Donc, je joue un monologue pour le moment qui s'appelle Omimuna, ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère. Et effectivement, je raconte ce qui est arrivé à mon arrière-grand-mère. En fait, je suis allé auprès d'elle il y a 16-17 ans, alors qu'elle était encore en vie, avec mon meilleur ami, avec une caméra pour faire un documentaire parce que j'avais subi de la violence de mon père.
Okay.
Et je me suis interrogé sur la source de cette violence. Donc j'ai été à sa rencontre. Donc j'ai fait j'ai été prendre des images à l'époque et tout, que j'ai laissé de côté. Et que j'ai réalisé un film 16 ans après, il y a 2 ans en fait. Et entre temps, j'avais fait des monologues sur la violence, sur mon arrière-grand-mère aussi. Et puis là maintenant, le dernier monologue que j'ai fait, parce que c'est mon 5e monologue, c'est un peu la recomposition de la question sur la violence et sur l'histoire de mon arrière-grand-mère. Et c'est un spectacle tragicomique où ça raconte justement mon périple d'aller à la rencontre de mon arrière-grand-mère avec mon meilleur ami. Et quand j'arrive là-bas, il arrive par une sorte d'événement magique. Je suis projeté en 1912 dans un monde invisible où je rencontre une jeune fillette qui s'appelle Mona et je m'en rends pas vraiment tout de suite compte que c'est mon arrière-grand-mère parce que c'est une jeune fillette. Et là, je commence à comprendre que je suis pris dans le piège du temps et dans le monde invisible. Donc, il y a une partie très comique, très fantastique.
Okay.
Et je suis témoin de tout ce qu'elle a subi, principalement de son mari.
Okay.
Et de la pauvreté, et puis du fait qu'elle, après que le décès de son mari, qu'elle a dû, dans les débuts des années 20, peut-être 30, subvenir aux besoins de ses enfants. C'était une époque quand même difficile en Tunisie. Donc voilà. Mais donc ça raconte cette histoire de comment de ce qu'elle a subi comme violence et de ce comment dans une certaine mesure c'est arrivé jusqu'à moi. Ça ne le raconte pas de manière précise parce que c'est pas l'objectif. C'était plutôt de voir comment une femme a lutté courageusement contre la violence et puis moi qui mon alter ego, Mohsen, enfin il y a plusieurs Mohsen sur scène. Comment moi je me débrouille pour me sortir de cette violence et comment quels a été les effets de cette violence sur moi et comment je fais pour digérer
l'exorciser un peu si on veut.
Ouais, ouais. C'est ça, l'accepter tout ça. Bon, c'est okay. Travail, voilà, ça raconte un peu ça donc.
J'imagine donc, si, comme vous disiez au départ, donc vous avez vous-même subi là, la violence de votre père. Est-ce que vous aviez aussi un petit peu une crainte que cette violence continue dans avec vous-même par rapport peut-être à vos enfants ou les gens dans votre entourage?
Tout à fait. Enfin, j'ai toujours eu peur d'avoir hérité cette violence, mm-hmm. Mais cette peur ne s'est pas exprimée dans le sens où j'ai jamais été violent avec les gens. Au contraire, c'était une violence plutôt retournée.
Okay.
Vers moi-même.
Okay.
Donc un jugement très fort sur moi-même, plus jeune, très là ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus gentil avec moi. Vous savez, on a l'esprit de jugement, on a tous un petit hamster qui
effectivement.
Fait machin tout ça, mais moi c'était vraiment très très fort. Donc quelque part cette voix qui était la mienne était en fait celle de mon père et je pensais toujours qu'une catastrophe allait m'arriver. Il y avait aussi de l'auto-sabotage dans ma carrière ou dans ma vie. Donc, la violence n'est pas exprimée de manière physique, proprement dit. Quoique, quand j'étais jeune, j'ai fait des crises, mais des crises qui s'étaient tout le temps retournées vers moi ou vers un mur ou quelque chose comme ça, quand j'étais vraiment jeune. Mais ça n'a pas, comment dire, je n'ai jamais, par exemple, moi j'étais au pensionnat, par exemple, 12 ans. Actuellement, quand tu es au pensionnat, il faut se défendre parce qu'on t'attaque et tout ça. Ben, les fois où j'ai dû me bagarrer, quand j'avais 12, 13 ans ou 14 ans, enfin, qu'importe, ben, dès que je prenais le dessus, dès que c'était plus de la défense, mais disons, je commençais à prendre le dessus parce que tous ceux qui m'attaquaient étaient pas tous plus forts que moi, eh ben, dès que c'était le moment où je devais taper, ben, j'étais pas capable. Et donc, je me faisais lessiver parce que j'étais pas capable de frapper. Okay. Donc, c'est pas une violence de la même, de la même ordre que, ceci dit, mon père, c'était pas juste une violence physique, c'était une violence psychologique, une violence, tu pouvais pas parler, tu pouvais pas bouger, tu pouvais pas, donc, c'était comme, c'était une forme de, malgré lui, hein, je constate, je ne suis pas dans le jugement, mais je constate que, qu'il a hérité, lui, de
Il y a tout un héritage là, familial. Ah, j'imagine que vous avez peut-être brisé un peu cette chaîne là, à un moment donné parce que c'est transmis de famille en famille. Est-ce que vous avez l'impression que justement, toute la démarche que vous avez faite avec le documentaire plus la pièce que vous présentez en ce moment, est-ce que ça a été thérapeutique pour vous par rapport à tout ça?
Ben, c'est sûr qu'il y a un cheminement, mais surtout le cheminement principal, je pense, c'est... Ben moi, d'abord, j'ai fait un travail personnel en thérapie qui est en dehors de du travail artistique, du travail théâtral. Parce que quand j'arrive sur scène, comme bon conteur ou comme bonne personne qui raconte une histoire que tu peux la raconter quand les choses se sont passées. Je veux dire, quand tu es dans l'événement, c'est pas une histoire. Une histoire, on dit, après l'événement, on dit alors qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, moi, je viens raconter une histoire. Donc je suis pas en processus, même si le fait de faire du théâtre, et ça je le reconnais, je me pose cette question toujours, et je pense peut-être que tous les comédiens se posent, pourquoi on fait du théâtre, pourquoi on joue. Il y a effectivement le fait de réunir et cette idée du comme le théâtre grec d'être en catharsis et tout ça pour le public, mais je pense au public là, je dis voilà, il se fait que moi j'ai une histoire qui a été un peu spéciale, j'ai pensé que cette histoire peut être intéressante pour le public.
C'est ça.
Par contre, le fait de faire un acte théâtral, c'est-à-dire de jouer dans le sens pur du terme, c'est, je pense que ce soit cette pièce-là ou d'autres pièces, c'est cet acte-là, je pense, qui est réparateur pour moi. C'est-à-dire que face à la non-existence quasiment du jeu dans mon enfance, je me retrouve en tant qu'adulte à préserver un espace où je me dis, là, je vais jouer, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et je pense que c'est plutôt cet acte-là, et que je joue mes pièces ou quand je suis comédien pour d'autres metteurs en scène ou à la télé et tout ça, c'est un moment où je fais une sorte de pied de nez à ce qui m'est arrivé. Donc dans ce sens-là, peut-être qu'il y a un processus, probablement, mais la pièce elle-même, franchement, c'est un travail comme... C'est sûr que le seul avantage, je dirais, c'est que la matière était là. J'ai dû faire des recherches, mais c'est des recherches où les gens se sont ouverts à moi, ils m'ont raconté des histoires. Parce que par exemple, quand j'étais auprès de mon arrière-grand-mère et mes oncles et tout ça, mais au début, personne ne voulait me raconter quoi que ce soit parce que ça ne se fait pas de parler mal entre des gens qui sont décédés. Donc mon arrière-grand-mère était décédée et puis c'était gênant, c'était malvenu de faire ça. Donc j'ai dû aller, malgré que je les connaissais très bien, comme c'était ma famille, j'ai dû quand même gratouiller fort pour raconter leur histoire.
Leur tirer les verres du
nez. J'ai bien répondu. Ouais, exactement.
D'ailleurs, quand même, je voyais dans une critique de votre spectacle, c'est quand même un côté tendre, drôle et attachant. Donc, quelque chose qui est très, qui continuellement là, dans un côté négatif face à la violence. Là, vous nous amenez dans différents types d'émotions. Là.
Tout à fait. C'est très très contrasté le spectacle, très nuancé, balancé, contrasté entre les moments de violence, mais qui sont, exprimés théâtralement de manière, je sais pas comment dire, pas poétique, c'est dur quand même, donc c'est poétique, mais disons théâtral, mais d'une manière, c'est pas un truc où je me coupe au couteau, là, c'est un truc poétique, enfin, utilisé, et à côté de ça, il y a plusieurs grands numéros quasiment de clownesque, mais dans le sens comique, pas dans le sens clown, mais vraiment dans le sens pur du clown, des numbers, voilà, des numéros très très drôles où les gens rient. Donc je joue tous les personnages. Je joue moi, je joue mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, je joue un taximan, un aviateur, un pilote, pardon, un vieil homme. Enfin, je joue beaucoup beaucoup de personnages. Donc ça crée un spectacle vraiment très ludique pour le spectateur qui passe d'émotions de rire, de fou rire, et puis de tension et de terreur.
Ouais.
Voilà, donc c'est, c'est comme ça que le public le reçoit. En plus, je joue sans costume. J'ai un costume, mais c'est pas un costume vraiment. Enfin, c'est un costume réfléchi qui n'est pas un costume. Et pas, sans décor. Donc le public s'imagine toutes les scènes. Il voyage à travers la Tunisie, le voyage en avion, le passage dans le monde invisible. Tous les soirs, les gens me disent, mais c'est incroyable, tu nous fais passer dans un monde invisible alors qu'il se passe rien, il y a pas de musique et tout ça. Et ça, je suis très content parce que c'était l'objectif que je m'étais donné, c'est-à-dire stimuler et échanger avec le public par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a ce terrain commun quand je dis quelque chose, quand je raconte quelque chose, quand je joue quelque chose, et le public peut imaginer tout sans devoir être assisté ou
appuyé par quelque chose. Ouais.
Voilà, oh. Exactement. Mm-hmm. Exactement.
Mais je voyais quand même que c'était pas votre premier travail au niveau de ce qui touche la violence. J'ai cru voir que vous aviez déjà travaillé sur quelque chose qui parlait du massacre de Polytechnique aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez écrit vous-même ou que vous avez joué dans cette pièce?
Oui, je l'ai aussi joué, écrit et mis en scène.
Okay.
À la différence de ce spectacle-ci, qui est tragicomique, où on a énormément de comiques, où on sort léger du spectacle, etc.
Okay.
Et le précédent était hyper tragique, très, très dense, une sorte de... C'était l'histoire d'un acteur, ça s'appelait Le Dernier Rôle, c'était l'histoire d'un acteur qui devait jouer le rôle d'un meurtrier de masse, un type qui a tué 17 femmes dans une université en Alaska.
Ah
là,
oui,
on comprend assez vite que c'était l'histoire de Mark Lupin transposée en Alaska. Et dans sa préparation, l'acteur tombe au bord de sa propre folie. Donc on a une descente aux enfers de cet acteur qui, bon an, mal an, avait une carrière moyenne et s'est dit c'est l'occasion de sa vie. Et en se disant que c'est l'occasion de sa vie, il s'est dit je vais faire tout pour réussir ce rôle. Mais en faisant tout, il va dans l'excès. D'abord il essaie de comprendre ce meurtrier, il essaie de voir ce qui se passe, donc on a l'occasion de voir un peu ce qui se passe dans la vie de Mark Lupin et tout ça. Et petit à petit, il voit que ça fait écho à sa propre vie. Et cet écho-là, il ne s'en rend pas compte, mais ça le réveille. Après, à un moment donné, il s'en rend compte et il se dit je vais profiter de mes blessures pour alimenter le personnage. Mais en faisant ça, il bascule dans la folie. Et d'ailleurs, certaines personnes, même critiques, n'ont pas fait la différence entre cette proposition de réflexion de ce travail d'acteur en pensant que c'était comment moi j'aborderais un rôle. Alors que moi, je n'aborde pas du tout un rôle comme ça. Pour moi, un personnage, c'est un personnage. Je n'ai pas besoin de tomber dans la folie d'un personnage pour pouvoir le jouer. Moi, je trouve qu'il y a les situations, le texte, il faut se mettre dedans, c'est sûr, mais j'ai pas besoin de rentrer à la maison et de devenir taré ou de revivre des souffrances interminables pour comprendre ou devoir jouer. Vous voyez ce que je veux dire?
Ok. Mm-hmm.
Et, ou tomber dans une folie, là, vous savez, un peu genre Stanislavski ou...
oui, c'est ça.
Ou acteur studio, moi je suis pas très pour ça.
Okay.
Et donc là, il y avait une confusion, parce que moi je jouais un acteur qui jouait un rôle d'un meurtrier de masse, et certaines personnes pensaient que l'acteur c'était moi, alors que moi je prépare tout totalement différemment les rôles.
Okay. C'est sûr qu'on n'a pas le contrôle des fois comment les gens reçoivent ce qu'on tente de transmettre comme message, hein, c'est sûr. Hein.
Tout à fait.
On doit s'abandonner à ça.
Hein. Tout à fait. Ils projettent souvent leur analyse, leur grille de lecture sur ce qu'on fait.
Ouais. C'est ça. Monsieur Garbi, pardon, vous êtes au Théâtre Prospero là, qui est à Montréal, donc jusqu'au 20 octobre. Quelle façon les gens peuvent se procurer des billets pour aller vous voir?
Alors là, j'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais si vous allez sur théâtreprospero.com, il y a un lien vers le spectacle au Mimouna, ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère. Et puis là, il y a même des bandes-annonces, des critiques aussi, puis la billetterie. Donc, je pense que le plus facile, c'est par en ligne, quoi.
Ben oui. Puis vous êtes en spectacle de quel jour à quel jour là, dans la semaine?
C'est du mardi au samedi. Et par contre, le mardi, c'est à 20h15, puis après, c'est à 19h15. Il faut faire attention, on alterne 20h15, 19h15, 20h15, 19h15, et puis le samedi à 16h15.
Okay.
À Montréal, donc, sur Ontario.
Est-ce que ce spectacle-là, c'était une première que vous faites là, à Montréal, ou vous l'avez fait, je pense, vous l'avez fait au Nouveau-Brunswick avant, si j'ai bien lu à quelque part?
Tout à fait. Mm-hmm. J'ai fait une tournée au Nouveau-Brunswick, j'ai créé le spectacle à Caraquet.
Okay.
J'ai fait une tournée là, d'une dizaine de petites villes. Aller au Nouveau-Brunswick. Après, j'ai fait L'année passée, j'ai joué au Mai, à Montréal, et suite au succès de ces deux séries de représentations, on a décidé de faire une reprise. Le Théâtre Prospero l'a sélectionné, il y a fait une sorte de comité de jury. Et voilà, et là, maintenant, ça se passe super bien. Le public est super content. On s'amuse beaucoup malgré les... C'est un peu bizarre de dire ça parce qu'à cause du thème, là.
Ouais, c'est ça. Malgré
on s'amuse
le thème,
beaucoup, les
ça.
Gens se font taper, on se marre beaucoup. mais malgré le thème, on s'amuse beaucoup et le public est vraiment très, très content.
C'est une salle toute très intime, ce que j'ai cru comprendre, le Théâtre Prospero, en tout cas cette salle-là.
Tout à fait, c'est une petite salle, donc c'est une expérience vraiment exceptionnelle, parce que moi je l'ai joué dans une salle moyenne, et puis sur des grands plateaux. Je l'ai joué aussi au Théâtre de la Ville de Longueuil, et c'était des plus grands plateaux. Et là, ça donne une dimension intéressante pour le public, pour moi aussi comme acteur, l'espace est plus petit, et vraiment, le public me voit plus proche, il y a une sorte de... La salle intime, elle ne s'appelle pas intime pour intimité, c'est en référence à... un auteur Strindberg qui parlait de... J'ai oublié le nom latin, enfin, il a écrit un livre là-dessus, okay. Sur le rapport proche du public et tout ça. Mais ici, il se fait qu'effectivement, il y a un rapport intéressant qui s'installe dans la petite salle. Donc c'est vraiment une occasion pour le public de voir un spectacle très 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 proche avec l'acteur et puis là, qui se passe sur scène.
Parfait. Alors on invite les gens, même si vous êtes de la région de Québec, d'aller faire un tour à Montréal, puis d'aller donc voir ce spectacle qui regroupe autant, qui peut être autant drôle, touchant, un peu bouleversant j'imagine, un peu aussi par moment.
Oui. Mm-hmm. Ouais, je vois des fois des gens dans le public à la fin du spectacle qui ont la gorge nouée ou des larmes aux yeux, donc ils sont touchés par ce qui se passe, ouais, effectivement. Après avoir ri, hein, après avoir rigolé.
J'imagine que...
Donc, si tu dis aux gens que c'est un truc sur la violence, machin, je me suis déjà fait prendre sur plusieurs entrevues. Là, les gens se disent oui, je ne vais pas les voir, j'ai passé un mauvais moment.
C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué, je pense que... Est-ce que ça arrive que, justement, le fait d'avoir été passé par quelque chose de bouleversant. Après ça, le rire est peut-être même plus facile. Les gens vont rire plus, en tout cas plus profondément que si c'était juste de l'humour. Là.
Ben oui. Ben, en fait, il y a plusieurs passages dans le spectacle. Donc, je commence par l'enjeu du spectacle et puis au début du spectacle, il y a une dizaine de minutes de comique là, qui s'approche très fort du stand-up. J'arrive, okay. je pars en avion, puis après il y a un taxi en Tunisie, et puis là, les gens même sont en plus, tiens, on dirait presque un stand-up. Et puis petit à petit, on arrive dans le village de l'enfance de mon arrière-grand-mère, et petit à petit, là, on s'enfonce dans l'histoire. On dit encore c'est léger, et 15 minutes après, pouf, on rentre dans le vif du sujet. Et là, il se passe des choses. Oui, ça se tend. Et de temps en temps, malgré les moments de tension, je viens alléger par quelques moments comiques. Et puis là, on s'enfonce vraiment dans la violence. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête parce qu'il y a un événement. En fait, mon arrière-grand-père meurt je ne dirais pas comment il meurt, mais et là, je sens un soulagement. Et puis là, il y a un grand numéro clownesque où je fais un orchestre symphonique. Les gens sont morts de rire. Et on sent bien que, à ce moment-là, même s'ils ont beaucoup ri au début, à ce moment-là, je sens bien qu'ils sont très, très, très contents que ça se passe bien. Effectivement, je sens un rire beaucoup plus...
sincère et profond.
Oui, de relâchement. Ouais. Qu'au début, on rigole un peu plus comme dans un spectacle qui s'approche de l'humour. Et puis là, on rigole vraiment par soulagement, par rire aussi. Et puis, voilà. Enfin, une sorte de mix, voilà. Effectivement, c'est intéressant de voir les deux. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Et puis voilà, et après, petit à petit, ça termine. Voilà.
Merci beaucoup, M. Garbi. On vous souhaite en tout cas des bonnes fins de représentation là-bas. Et peut-être un jour, on peut-être vous voir à Québec, on ne sait jamais. On se croise les doigts.
J'espère, oui.